Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Yosef Haïm Sitruk. Bonne écoute et bon limoud.
Bonjour, bien évidemment. Ce soir, c'est un shiur, comme tous les shiurim. Et j'ai choisi, pour ce soir, Ephraim me rappelle de dédier le shiur, l'Eilul Nishmat, d'abord un jeune homme de 23 ans qui m'a occidentalement il y a quelques jours. Il s'appelait Nathanael Menachem Ben Aaron, surnom et ma femme. Et également de Chaim Ben Meir et Bibon, surnom et ma femme. Donc, cette étude de Torah soit un ardoir pour la Neshama. Je vais m'inspirer pour ce chiot d'un grand maître que vous connaissez tous, qui s'appelait le Rav Eliyahu Dessner. Je vous dis, Rav, décédé il y a quelques années, qui a été proche de Shiva, à l'Ishiva prestigieuse de Bonovich en Israël, après avoir été le chef spirituel de l'Ishiva de Getzel. Un rêve d'une extrême profondeur, et qui, je crois, a lié des qualités morales exceptionnelles à une connaissance hors du commun. Et le thème que j'ai choisi est celui de comprendre de façon non superficielle, pour ne pas être prétentieux, la relation qu'il y a dans le Torah entre Yaakov Avinu et Yosef HaTzadik. Tout le monde sait que Yosef est bien évidemment le fils de Yaakov et de Rachel, mais lorsque la Torah est présente, elle dit « Elle est Todot Yaakov, Yosef ». Voici la généalogie de Jacob, de point Yosef. Elle invite donc une comparaison étroite entre les deux personnages. Et Rachid est nommé sur la piste, puisqu'il dit vraiment que toute l'essence de Jacob, l'énergie qu'il a déployée, a consisté à se marier avec Rachel, pour laquelle il a travaillé chez son beau-père Laban, le fourbe, pendant 14 ans, et qu'ensuite, dit Rashi, il y avait entre Yaakov et Yosef une très grande ressemblance physique, et qu'enfin, tous les événements de la vie de Jacob sont également allumés à Yosef. On va essayer de comprendre en quoi, parce que vous savez bien que Rashi, le plus grand commentateur de la Torah, est d'une extrême brièveté, volontaire. Il a écrit son commentaire sur la Torah trois fois. Chaque fois, dit-il lui-même, il a réduit le texte. Et il a écrit à la fin de la troisième, si Dieu me laisse la vie, je l'écris une quatrième fois encore plus belle. Malheureusement, il n'a pas eu le temps. Ce qui veut dire qu'il nous faut toujours, quand on étudie Rashi, essayer de comprendre quelle a été sa pensée profonde. Parce que le commentateur qui est bref D'abord, on le lit plus facilement, mais on le comprend plus difficilement. Et moi, je suis toujours surpris que beaucoup de gens considèrent que le niveau de Prashtasi est un niveau élémentaire. Moi, je prétends. Et nous pouvons en apporter de nombreuses preuves que celui qui comprend bien le rachis sur le Coran est un grand alitrava. Parce que le rachis n'a pas exprimé simplement sa pensée personnelle, il a cité les paroles de nos sages du Talmud des Midrashim. Et le vrai travail consiste à savoir pourquoi rachis a choisi tel midrash plutôt que tel autre midrash, et je les connaissais tous. Il y en a des centaines. Et chaque fois, il avait une intention précise. Voilà pourquoi, loin d'être élémentaire, l'étude du Chumash avec Rashi est un véritable exercice. Mais la grandeur de ce commentateur, c'est qu'en plus, son commentaire dans le sens pshat simple est accessible même aux petits-enfants. Mais je voulais surtout vous dire en disant ces quelques mots, ne méprisons pas, pas un chat, le Chumash Rashi, comme si c'était une matière élémentaire, mais apprenons à le regarder, ce Chumash Rashi, avec respect, et essayons chaque fois de le comprendre mieux. Moi, j'ai la chance, depuis pas mal d'années, je suis en main vue, j'ai 20 ans, 25 ans, de refaire toutes les semaines la paracha avec Rashi. Et mon entourage m'a souvent dit, mais pourquoi tu ne dis pas autre chose? Je dis, parce que j'ai pas compris Rashi. J'ai envie de comprendre Rashi. J'ai envie d'approfondir Rashi. Et c'est un travail de toute une vie. Il lui a lui-même investi tellement d'énergie, de science et de bonheur. Ça vaut la peine qu'il consacre nous un petit peu de temps. Bien donc, Rashi vient de dire que les similitudes entre Yosef et Jacob méritent le dépôt. C'est ce que nous allons ce soir essayer de faire en compagnie, en tenant la main du Rav Eliyahu Dessner. Je suis partagé entre le bonheur de vous regarder et la nécessité de lire le livre de temps en temps, ce que je peux pas faire avec mes lunettes. Voilà pourquoi de temps en temps j'accomplis ce geste. Mais c'est déjà tellement beau de vous voir, vous, que je préfère vous regarder à vous. Non, c'est vrai, fallait moins certain, quoi. Nous avons introduit d'abord le sujet par une idée extrêmement intéressante et profonde. Il dit comme cela, la finalité de la création du monde, c'est que chaque être créé accomplisse ici-bas la raison pour laquelle il a été créé. Personne n'a été créé inutilement. Mieux, chacun d'entre nous, mais bien dit chacun, des plus érudits aux plus ignorants, à sa place, dans ce que j'appellerais l'économie divine du monde. Comment la trouver? Ben, en exploitant, tout simplement, ce que Dieu lui a donné. Réfléchissons à cette idée. Qu'est-ce que Dieu nous a donné? Il nous a donné à chacun, d'abord, des outils qui sont notre intelligence, notre mémoire, notre capacité de réflexion. Il nous a donné aussi des parents, de qui on hérite des qualités et des défauts, des traits de caractère et des apparences. Servir Hachem avec tout cela, C'est la base de tout. Puis ensuite, bien sûr, on sert à chair avec l'environnement qui est le nôtre, notre famille, notre société, notre époque, les événements qui se déroulent constamment autour de nous. Servir la chair, c'est cela. C'est être en mesure, au filtre de ce que l'on est, de comprendre ce qui se passe. Rien ne nous laisse indifférent. Un juif s'intéresse à tout. C'est sa vocation, c'est son devoir. Partant de là, on comprend mieux pourquoi la Torah, plutôt que de raconter toutes sortes de choses, si j'ose dire dans le livre de Bereshit, s'est concentré sur les personnages qui étaient les Avot, Abraham, Israël et Jacob, accordant une place extrêmement importante à Yosef. Et puis aux 12 tribus. Pourquoi? Parce que chacun d'entre eux était un éclairage différent de la création du monde. Et les événements qu'ils ont vécu les uns et les autres ont permis ce qu'on peut appeler en hébreu les galotes, voire chez qui n'a pas, de révéler un peu la gloire de la présence du lien que la chair. Depuis qu'il a créé l'homme, a décidé de se cacher dans la création. Et le rôle de l'homme, c'est de dévoiler, justement, ce Dieu si discret. Il ne peut pas apparaître, on ne peut pas obliger l'homme à croire. En quelques mots, nous venons de définir le but de la vie et le rôle de chacun. Voilà pourquoi tout ce qui arrive à chacun d'entre nous a une importance extrême et chacun peut se dire c'est pour moi que le monde a été créé. Qu'est-ce que j'ai moi à faire dans cette extraordinaire fresque dont on regarde l'univers infini, la multitude d'être créé, on se dit, qu'est-ce que je suis? On s'est dit de paille balancée par la vague? Non. Tu es un des buts de la création. Tu as un rôle unique, comme dans une symphonie, où chaque musicien, à son tour, doit émettre des sons qui procèdent de l'harmonie globale. Je ne suis pas un féru de musique classique, mais même désolé d'écouter quelquefois un peu cette musique. Et j'avais été frappé parce que un des musiciens a un instrument, une sorte de disque sur lequel on donne un coup. Et un concert dure des heures. Lui, il est allé au début à la fin du concert pour pendant une seconde, taper sur son instrument. C'est un peu ça. L'image que je me dépeindre devant vous. Pour nous donner à tous du courage, la conviction que nous ne sommes pas ignorés sur une planète lointaine, dans une immensité des galaxies. Puisque, en s'adressant à Abraham, Dieu a dit, je ferai de ta postérité une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et le sable de la mer. Deux images, exprimant bien sûr la multitude, mais très différentes l'une de l'autre. Une étoile est un monde, une planète. Elle est sans doute pleine de vie, et elle est surtout autonome. Elle est loin des autres étoiles, parfois à des distances considérables. Un grain de sable, il n'y est plus. Il est contre un autre grain, qui lui même opposé un autre. Tous ensemble, ces grains forment la plage, donc le continent. Ils sont capables de résister aux vaisseaux de la plus grande force que l'on connaisse, c'est-à-dire la mer. En donnant cette double image, la Torah veut nous dire qui sont les Juifs. Les Juifs, ce sont d'abord les étoiles, en anglais les stars. Ça, vous le savez, je pense. Chacun est unique, chacun est lumineux, chacun est seul. Mais seul, les Juifs ne seraient rien. Ils sont à côté des autres Juifs. Ils forment ensemble la barrière qui arrête tous les dangers, symbolisés par la mer Amaï Macédonie, comme disait le roi David. Les eaux tumultueuses, puissantes, on est capable d'arrêter. Étrange comme destin, mais parfaitement réussi. Tout au long de l'histoire, nous avons été un petit peuple, uniquement, mais très grand, par l'importance qu'il a occupée dans l'histoire, par l'exemple qu'il a fourni à toutes les nations, et par surtout la plus grande qualité du peuple d'Israël, c'est sa fidélité. Israël est resté, bon gré, mal gré, fidèle à la Torah, malgré toutes sortes de vicissitudes, difficultés, persécutions. On a conservé, ça ne veut pas dire, vous ne comprenez pas bien, on est tous fidèles et tous religieux. Ça veut dire que globalement, notre peuple a constitué une véritable chaîne de transmission de toutes les valeurs du chemin. Et ça, nous sommes arrivés, mes chers amis, grâce à la chaîne, bien évidemment, et par notre détermination à ne jamais abandonner, à continuer quelles que soient les circonstances. Quelqu'un qui se demande que va être demain pour savoir qui est celui-là intérieur. Nous, les Juifs, on ne s'est jamais posé ce genre de questions. On est obligé de continuer. On est obligé de continuer à tout prix. C'est moi le prix. Et quelqu'un qui a la chance de vivre quelques décennies se rencontre très vite dans toutes les circonstances de sa vie sont d'une telle intensité, parfois d'une telle violence, que pour s'en sortir, il est impossible de s'en sortir tout seul. Voilà pourquoi, quand on est ensemble, on se sent tellement vivant, tellement fort. Voilà pourquoi j'ai enlevé mes lunettes. Profitez des paroles magiques de leur mystère. Je veux savoir avec vous. Le rap part d'un constat bien connu. Jacob avait deux noms. Il méritait deux appellations. Jacob et Israël. La deuxième lui a été donnée après une lutte contre un inconnu, une nuit au bord d'un fleuve, qui était l'ange tutélaire des amis. Et Jacob s'appellera désormais Israël. Mais, comme dit Agmara dans la parole, on continuera d'appeler Jacob, Jacob. Donc il portera deux noms. Un reste par exemple d'Abraham. Abraham au début s'appelait Abraham. On lui a ajouté un ré. Et la Torah l'a appelé Abraham. Depuis on ne l'appelle plus Abraham. On l'appelle Abraham. Jacob, on l'appelle et Jacob. Et Israël. Ce qui veut dire que chacun des deux noms exprime une réalité différente. Laquelle? Israël on va dire c'est le nom altier de Olam Shemara, le monde d'en haut, celui des réalités spirituelles, qui est un nom extrêmement puissant. Yaakov, c'est une révélation là, je le rappelle, Olam Atarkon, le monde d'en bas. Quelle différence entre les deux? C'est que dans le monde d'en bas, celui que nous connaissons bien, le peuple juif est confronté à toutes sortes de difficultés, de réalités, qui risquent de faire perdre son identité. Donc c'est le monde de combat. Un combat que les juifs mènent depuis des siècles et des siècles. Juste quelques éclairages. Peut-être que vous avez été surpris, ou pas, je ne sais pas, de ce que tout le monde cherche à vous appeler sages juifs. C'est vrai. Même quand on prend un bain, une douche, on est appelé sages juifs. Notre saleté, entre guillemets, n'a rien à voir avec une apparence physique. Elle est un terme qu'on a voulu nous coller, qui est l'expression, en fait, d'une volonté de nous mépriser. Parce qu'en fait, quand on ne peut pas imiter quelqu'un, il ne nous reste qu'une solution, c'est de le mépriser. Le monde incapable d'imiter Israël, le peuple juif, essaie de le rabaisser. D'où l'image de l'idolâtrie qu'on a voulu donner à ce peuple-là, qui a d'ailleurs malheureusement fait beaucoup de dégâts. Quelque part, la Torah les dit un peu, si j'ose dire, aider. Yaakov veut dire en hébreu le talon, veut dire aussi le tortueux. Le chemin de Yaakov, fidèle à la Torah, un chemin qui n'est pas toujours malgré une sorte de vicissitude, on en profite pour inviter. Verset 10, je me fonde, on a conservé. Ça ne veut pas dire, on ne connaît pas bien que. On est tous fidèles et tous religieux. Vous savez, globalement, sauf que notre valeur a constitué. Mais le but est toujours un véritable chaîne de transmission de toutes les valeurs du chemin de l'éducation. Et ça, nous sommes agréés, j'ai remis grâce à la chaîne, bien évidemment, sans souci. Et par notre détermination, on ne jamais abandonné, à continuer quelque chose de circonstances. Et en fait, quelqu'un qui se croit en force du peuple juif ne devra jamais arrêter de se battre. On a une grande leçon de Yaakov. On ne s'est jamais posé ce genre de questions. On est obligé. Quand il a fallu, bien sûr, qu'il passe la main du temps éternel et les tordos de Yaakov, le point Yosef. Aussi la généalogie de Yaakov qui a incarné cette valeur après sa mort, Yosef. Pourquoi Yosef? Parce qu'il était d'abord doué des mêmes qualités que son père, à savoir une conviction très profonde, une certitude même qu'Hachem ne le laisserait jamais tomber. Et Yosef a eu une existence assez tumultueuse, faite de drames et de sommets. Mais tous les moments sont également beaux. C'est-à-dire, dans toutes les circonstances, non seulement Yosef ne s'est jamais plaint, mais il l'a vu à chaque instant, partout, la présence divine à ses côtés. Jeté en prison pour un crime qu'il n'avait pas commis, voilà qu'il voit tout de suite, dans le moindre détail, comment Hachem le protège. Comment Hachem le garde, que rien de ce qui lui arrive n'est au hasard, et là émane de lui une force exceptionnelle, qui lui permettra de résister à ces temps d'épreuves. Ainsi en sera-t-il de chacun d'entre nous. Dans l'histoire d'Israël, Voilà que les épreuves constituent apparemment la majorité de notre vie. Vous savez, moi, je crois vous l'avoir dit une fois dans un cours il y a très longtemps, je n'ai jamais lu de livre d'histoire. Pourquoi ? Parce que c'est déprimant. Quand vous lisez la table de matière d'un livre d'histoire, quel qu'il soit, expulsion de tel endroit, persécution de tel endroit, pogrom de tel endroit, on ne parle que de ça. On n'a plus de morale. Au lieu de dire, on est encore là, on est toujours là, on est encore plus fort qu'avant, on est encore plus jeune qu'avant, on est encore plus dynamique qu'avant, on est plein de projets. Non, ça n'intéresse pas les historiens, ça n'intéresse que les rabbins. Voilà pourquoi moi je vous le dis. Et en fait, cette force-là, le peuple juif la puise dans sa foi en Hachem. Parce qu'on a toujours traqué les indices de sa présence tous les jours de notre vie. Vous savez, c'est pas la peine de faire de grandes phrases. Mais quand dans vos vies, il y a une belle circonstance, quelque chose qui se passe bien, prenez l'habitude de dire Baruch Hashem. Toda Hashem. Merci. Vous allez voir ça devenir votre nature. Vous allez vous rendre compte que finalement, quoi que je vive, vous êtes très heureux. Que tout se passe très bien. Qu'autour de vous, il n'y a que du bien. Et quand on réagit ainsi, on voit comment, notamment Yosef, a été celui-là. Celui qui n'a jamais désespéré. Celui qui, même haï par ses frères, c'est horrible, rejeté par eux, jalousé par tout le monde, jeté en prison, toutes ces épreuves-là ne vont rien entamer dans sa détermination à accomplir totalement sa mission. Rachid, tout à l'heure, que j'ai cité, parlait d'une ressemblance étrange entre Yaakov et Yosef. Le Maharal de Prague, dans le Gouharier, quand son commentaire sur Rachid, justement, dit que nous ne prenons pas, il ne s'agit pas d'une ressemblance physique. Ce n'est pas seulement, comme on pourrait le croire, que les traits du visage de Yosef ressemblaient à Yaakov. On dit de Yosef qu'il était beau. Très beau. Il fait Torah, il fait Maré. Il est d'ailleurs le seul homme que la Torah, dont la Torah précise qu'il était beau. Ça veut dire que c'est le seul homme beau, mais lui on le dit, personne d'autre. D'ailleurs, le grand devina prend les initiales de Yéfé Torah. Il fait marrer et il obtient le mot Yatov, orphelin. C'est-à-dire que c'est un constat unique, il n'y en a pas d'autre. Donc Yosef Hatzadi ressemblait à son père. Mais dit le Maharal, cette ressemblance n'avait rien à voir avec le physique. Elle était un reflet de ce qu'était le personnage de Yaakov, c'est-à-dire quelqu'un dans la tradition dit. Qui ressemblait à Adam Arishon. Adam Arishon, le premier homme, qui était lui-même le réceptacle de la Shekhinah. En d'autres termes, ces hommes-là, Adam, Yaakov, Yosef, étaient des hommes d'une telle grandeur, d'une telle qualité morale, qu'ils reflétaient la présence divine par leur comportement. Qui est donc, en fait, comme je l'ai dit dans la première phrase du Shiur ce soir, la finalité de la vie, ce que nous cherchons à être. Et pour éviter tout alibi, dire je voudrais bien, mais je peux pas. J'ai essayé, mais j'ai pas réussi. On dit de Jacob qu'il a acquis deux qualités. Suivez vous-même. Le Emet, Titan Emet de Jacob, dit le verset. La vérité. Et Vayavo Yaakov Shalem, l'intégrité. Rien que ça, la vérité et l'intégrité. Quand vous êtes un homme perçu comme un fourbe qui a eu l'existence que nous avons résumée en trois phrases, être authentique toujours, c'est pas du tout évident. Ça a été un combat permanent. Par exemple, dans le Torah, on précise que pour pouvoir épouser Rachel, Jacob a donc, je l'ai dit tout à l'heure, travaillé 2 fois 7 ans, 14 ans. Son beau-père l'a roulé dans la farine, il l'a spolié, il l'a volé, il lui a menti, il lui a donné une autre femme, il a détourné son salaire, il a modifié les conditions de son travail, tout. Il aurait pu aller au prud'homme, Jacob. 100 fois, il n'a pas fait. Parce qu'il savait que ça ne sert à rien d'aller se plaindre à qui que ce soit et de ne pas comprendre que les circonstances de la vie sont envoyées par Hachem qui nous demande d'être égal à nous-mêmes, quelles que soient ces circonstances. Puis Jacob a été agressé par ce fameux ange la nuit. Il aurait pu trouver une raison d'arrêter. Trop, c'est trop. Je ne veux pas souffrir physiquement. Je ne veux pas boiter. Et où sont les alliés héros? Non. Il est arrivé quand même, malgré la hanche qui était luxée. Chalet. Vous vous rappelez que l'intégrité n'est pas la beauté physique, mais le fait de dépasser, de surmonter ces épreuves. Voilà ce que ça veut dire Shalem. Les gens pourront donc se plaindre qu'ils ont été malades, qu'ils ont souffert, qu'ils ont été rejetés, etc., etc. Jacob, c'est le refus de tous les alibis. Qu'est-ce qui se passe avec la lumière? Hein? Plaît-il? Non, mais on modifie l'éclairage pour des raisons cinématographiques. Parce qu'on est en train de filmer le cours qui devrait être projeté sur les salles parisiennes, notamment sur les Champs-Élysées demain, si on ne trouve pas le fugitif, pour distraire un peu les gens. C'est ça? Caméraman André Mitton, vous le savez, est un grand spécialiste qui lui a valu de gagner au Festival de Cannes l'équipe la plus originale du monde. Puis il ressort bien sur sa tête en plus. André, ça t'apprendra. Hein. Je voudrais insister quelques minutes sur cette manière de servir Dieu, quels que soient nos moyens. Pourquoi? Parce que dans nos propres prières, tous les Shabbat matin notamment, nous disons un très beau texte. Je vous incite tous à apprendre par cœur, on appelle Nishmat Kol Chai, avant Baruch. Que ce soit dans le rite Ashkenaz ou Sfarad, avec quelques petites variantes, il est exprimé toujours la même, à savoir, je résume, si les cieux étaient du parchemin, si les arbres étaient des plumes, si la mer était de l'encre, il ne suffirait pas à écrire tous les bienfaits dont nous sommes, nous le peuple d'Israël, l'objet tous les jours. On ne pourrait pas écrire ce texte-là. Al-Achad, Mielef Alfe Alafim, Rivot, ici Veniflaot. On ne pourrait pas décrire l'un des milliards de miracles que tu nous fais tous les jours. Je ne sais pas si vous avez le sentiment aujourd'hui, regardez, nous sommes lundi, 18 novembre, ça. Essayez de regarder aujourd'hui, chers amis, quels sont les miracles dont vous avez été l'objet. Est-ce que quelqu'un peut lever la main et dire, voilà, moi j'ai été l'objet de tel miracle. Non? Oui? Oui? Madame? Oui? J'ai pas compris. Elle a perdu quoi? Elle a perdu un portefeuille et alors, vous voulez que je vous le paye? En quoi c'est un miracle? Ah, madame, en quoi c'est un miracle? Bon, d'accord.
Merci.
On a un miracle discutable. Qu'est-ce qu'il y en a eu d'autre? Oui. Si vous ne levez pas le doigt, moi je vous désigne, hein. Madame, oui. Pardon?
La jeune fille m'a emmenée à votre cours et une amie aussi. Et dans l'état dans lequel je suis, un bon, mon cœur, que les premières paroles ont.
Mais c'est pour vous, madame, c'est pour vous. Madame se réjouit d'avoir pu trouver quelqu'un, sa voisine en l'occurrence, qui l'a amené au cours ce soir, et est persuadée que les paroles du cours l'ont concerné. Chère madame, je voudrais vous dire d'abord bravo, c'est un très bel exemple. En plus, sachez que je parle à tout le monde et à chacun. En d'autres termes, le cours, il concerne chacun d'entre nous. Alors, madame a assisté à une circoncision, une mila, et le bébé n'a pas pleuré. Vous êtes sûr qu'il est juif, là? Parce que les juifs se plaignent sans arrêt. Ça commence à la mila. Bravo, madame. Très bien. On pourrait continuer. Je déplore aucun homme de lever la main. On parle d'un des miracles qu'il a vécu aujourd'hui. Alors, messieurs. Je ne vois pas une main se lever. Tout au fond, oui. Allez-y. Oui. Pouvez parler fort, s'il vous plaît.
J'ai entendu dire que vous avez dit que tous les Juifs de France vont partir en Israël.
Ah. D'accord. Bon. Cher monsieur, moi, j'ai pas demandé que vous me racontiez votre vie les uns les autres, mais quels sont les miracles dont vous avez été l'objet. Le miracle, si j'ai bien compris, c'est que vous soyez là ce soir. N'empêche qu'en parlant d'un départ en Israël, ça fait couler beaucoup d'encre. Je voudrais préciser en deux mots une pensée. J'estime, pas moi, je rien du tout, par les textes bibliques et par les écrits de nos maîtres, que l'avenir des Juifs du monde entier est en Israël. Faire le pas individuellement d'aller en Israël, ceci, je l'ai annoncé, je l'ai précisé, est lié à au moins trois conditions. La première d'entre elles, c'est qu'on fasse une aliyah rouhanit, c'est-à-dire spirituelle, c'est-à-dire que, en arrivant en Israël, on augmente son niveau de piété, d'engagement dans la Torah. Parce que malheureusement, beaucoup de gens arrivent en Israël et ils estiment qu'en arrivant là-bas, ils sont juifs. Point final. Alors qu'ici, il faut se battre pour l'être. C'est une grave erreur. Au contraire, là-bas, il faut se battre davantage. Deuxièmement, j'ai préconisé que l'alliance se fasse toujours en ayant d'abord interrogé un rav, notre rav, et avoir écouté ses conseils et suivre ses enseignements. Troisièmement, pour ceux qui ont des enfants, en arrivant là-bas, de leur donner une éducation encore beaucoup plus religieuses que celles qu'ils ont reçues en France. À ces trois conditions, vous pouvez partir dès que vous le souhaitez. Autrement, prolongez votre frein, en sachant que de toute façon, on se retrouvera tous là-bas. Voilà. Si vous voulez bien, on continue, prédit, grâce à ces rêves prophétiques, la famine et l'abondance. Et il a su donner au pharaon des conseils judicieux. Apparemment, Sélopchès ici lui a valu d'être choisi comme au départ vice-roi, et puis en fait, détenteur de tous les pouvoirs de l'Égypte. Sachez d'abord que l'Égypte était, à l'époque, la plus grande puissance du monde, et c'était même la seule puissance du monde. Pour essayer d'imaginer aujourd'hui ce que serait l'Égypte de notre époque, il faudrait imaginer un pays aussi puissant économiquement, militairement, socialement, que les États-Unis et la Russie et la Chine réunis. Donc c'est une puissance colossale. Et Yosef était à la tête de tout ça. Pendant son exercice de sa royauté, il n'a pas cherché à faire des sondages, à être populaire. Il a tout de suite pris des mesures très sévères. Et dans son exigence de gestion rigoureuse, il est arrivé à une conclusion. C'est d'enrichir considérablement les caisses de Pharaon. Pas parce que Pharaon était sympa avec lui, pour une raison très précise, dit le Midrash. Parce qu'il savait que Hachem avait promis qu'un jour, les Juifs sortiraient d'Égypte et ils sortiront avec une richesse considérable. Rechouche, Gadol. Et il préparait déjà cette sortie grandiose du peuple d'Israël qui amènerait avec lui toute la richesse de l'Égypte. Sachez que dans une Gemara célèbre dans Psachim, page 118, 119, on dit là-bas ce qui est devenu la fortune de Yosef, que Yosef a donné au peuple d'Israël. Elle a été divisée en trois. La première, c'est Korach, qu'il a utilisé malheureusement mal pour devenir un contre-pouvoir face à Moshe Rabbeinu. La deuxième partie a été donnée à Rome et elle s'y trouve toujours. Et la troisième partie va être elle, l'héritage des Juifs à la fin des temps. Et même concernant la fortune qui se trouve à Rome, nos sages disent là-bas qu'elle nous revient de droit. Voilà pourquoi tout ce qui est actuellement stocké dans les sous-sols du Vatican, on ne cherche pas tellement à les voir, parce que moi je préfère savoir que je suis riche, je ne cherche pas à savoir combien j'ai. Je sais que je suis riche, vous aussi, vous aussi, vous aussi, vous aussi, tous. Grâce à ce que Yosef a accumulé à l'époque en Égypte. Ça dit quoi? Qu'est-ce qu'on voit ici? À part ce qui pourrait être une petite histoire, le fait que Yosef a tzadik préparait l'avenir. On dit d'ailleurs que à la fin des temps, il y aura deux Mashiach. Le Mashiach ben Yosef qui préparera la venue du Mashiach ben David. Le Mashiach qui délivrera Israël du joug des nations est appelé Mashiach ben David. C'est le dernier maillon de l'histoire. David Amelech, le roi David. Et descendant de qui? De Yehuda. Yehuda est un des fils de Rachel, de Léa. Inverse de Yosef, qui est un des fils de Rachel. L'occasion ici de vous préciser des choses très importantes. Si Jacob a eu deux épouses principales, Rachel et Léa, parce que chacune correspondait à une des dimensions qu'on a tout à l'heure évoquées, l'une visible, l'autre cachée. Celle qui était visible, c'est Rachel. Pourquoi ? Parce que Rachel, la Torah précise qu'elle était très belle, qu'elle était aimée, qu'elle était désirée. Léa, par contre, n'était pas particulièrement belle, c'est même un des très rares passages de la Torah où on note un défaut physique. Et Léa avait la vue faible, dit la Torah. Ce qui est très rare, même je crois introuvable à part ça. Pourquoi ? Pas pour l'enlaidir, pour lui montrer que sa beauté n'était pas la beauté visible. Et il en est ainsi de la vie. Il y a des choses que l'on voit qui s'imposent à nous, et d'autres qui sont, qu'on appelle Olam Amikasea, le monde caché, qui est le plus puissant, le plus grand et le moins visible. Léa, entre guillemets la mal aimée, va être celle d'abord qui va donner naissance à 6 enfants, c'est-à-dire la moitié des tribus. C'est-à-dire qu'ici dans la salle, statistiquement, 1 sur 2 parmi nous est descendant de Léa. C'est énorme. Mais Léa est aussi celle qui va donner naissance au roi d'Israël, Yehuda. Donnera naissance à David, donnera naissance au Mashiach ben David. Donc c'est d'elle que viendra la solution. Parce que Léa a su attendre. Parce que Léa, elle a été exceptionnelle de discrétion et de tendresse. Rachel, elle, a été cette femme généreuse qui a laissé passer sa sœur avant elle, alors qu'elle aimait Yaakov. Et pour ne pas que sa sœur soit humiliée, elle lui a laissé sa place sous la coupa. Un geste rarissime dans la Gemara d'Abba Metzia, qui à lui seul, il vaut tous les gestes généreux du monde. Ces deux femmes étaient chacune un des éclairages du personnage de Yaakov, dont nous en parlions tout à l'heure, qui vont se réaliser au fur et à mesure de l'histoire, par Yosef d'une part, par David d'autre part. Je voudrais à présent arriver à un point très important. Yaakov Avinu va remercier Hachem à chaque instant. Il va avoir constamment dans la bouche cet Odaya, ce remerciement. Il va dire à Hachem, Katon di Mikola Chassadim, je suis trop petit pour tout le bienfait que tu m'as prodigué. Et là, une grande leçon nous vient. Nous allons revoir incarnée par Léa, d'ailleurs. Léa, notre mère, quand elle a eu son fils Yehuda, elle dit, elle l'a nommé Yehuda en remerciement. Yehuda vient du verbe qui veut dire merci. Toda. Et elle remercie Dieu pourquoi ? Rachid le précise, Ibati Yoter Michelki, j'ai reçu plus que ma part. Et voilà, mes chers amis, une grande leçon de la vie. Qui est-ce qui est heureux ? Pas celui qui a beaucoup, mais celui qui a tout. Yaakov a répondu à Esav qui voulait lui donner des hommes pour l'escorter, des biens pour l'enrichir, il a dit non, merci. Quand elle a dit non, mais j'ai beaucoup, je suis riche. Et on lui dit non, moi j'ai pas besoin, j'ai tout. Entre riche et tout ta voix, quelle différence hein. Parce que celui qui est riche, il veut toujours plus. Celui qui a tout, il n'a besoin de rien. C'est impossible de tout avoir. Même si vous avez énormément de biens, il existe sûrement un château quelque part dans le monde que vous ne possédez pas. Une limousine que vous n'avez pas achetée. Un bien qui n'est pas à vous. Et comment peut-on dire j'ai tout? Ça veut dire qu'on dit j'ai tout, non pas après avoir examiné son patrimoine, mais après avoir pris la décision. Avoir tout, c'est décider que rien ne me manque. Voilà la philosophie de la vie de Jacob, que le peuple juif doit ensuite essayer d'incarner dans sa propre vie. Elle est, je dirais, la clé du bonheur. Réfléchissez bien, au moment où vous marierez, au lieu de vous interroger sur le patrimoine de votre conjoint, dites-vous est-ce que j'épouse quelqu'un qui est conscient qu'il ne manque de rien. Autrement, il aura toujours des exigences, des besoins, des demandes à formuler. Et on n'est jamais heureux. Quand on a besoin de quelque chose, on n'est jamais heureux. Jacob avait tout. Yehuda exprimait ce qu'il a plus que l'autre. Je ne mérite pas. Voilà pourquoi, mes chers amis, tous les jours, on s'éduque à cela. Dès le matin, je vous l'ai dit dans des cours, on commence par dire Modéani Lefanecha. Je te remercie. Remercie Dieu de quoi? De vivre. Quel que soit l'emploi du temps de la journée, quels que soient les rendez-vous parfois oppressants qu'on risque d'avoir dans la journée, quelles que soient les circonstances de la vie, quelqu'un qui se réveille dans un camp de concentration, comment voulez-vous qu'il dise Modéani? Eh bien, ils l'ont dit. Ils l'ont dit, les rabbinim, les sadikim qui ont été déportés, qui ont dormi sur la paille dans des conditions épouvantables des camps de la mort, sont réveillés tous les matins en disant Modéani Lefanecha. Je te remercie. La vie est une qualité qui ne dépend pas de ces circonstances. Je suis heureux par définition. Voilà ce que nous ont enseigné mes amis les Avots. Celui qui marche dans ce sens trouve nécessairement le bonheur. Parce qu'il ne dépend de personne ni de rien. Cette leçon, nous l'avons reçue de nos patriarches. Je tenais impérativement à vous la donner. Je voudrais, si vous me permettez, arriver à une dernière idée. On voit que Yosef a été très influencé par ses rêves. Les rêves occupent dans la vie de Yosef une place prépondérante. On voit dans la Chod, dans le Pérec Aroé, analyse les rêves et elle dit qu'est-ce qu'il y a de caractéristique des rêves de Yosef. C'est qu'ils sont des rêves prophétiques. Chacun annonçait quelque chose qui allait se dérouler. Autrement, on ne comprend pas ce que ces frères, d'ailleurs, on va chercher à comprendre. On dit quoi? Tu nous vois noir, venir nous prosterner devant toi. Quand il a parlé de germes qui se prosternent, ou d'étoiles qui se prosternent. Et pourtant, ça ne disait que la vérité. Pourquoi? Parce que c'était une prophétie. Maintenant, je me permets de vous demander à vous tous. Vous avez sûrement de rêver, non? Qu'est-ce qui a rêvé hier soir? Alors, est-ce que vous êtes un prophète, si vous rêvez, ou une prophétesse? Oui? Comment vous répondrez à cette question? Est-ce que celui qui rêve est un prophète? Nos rabbins sont très pragmatiques. Ils disent d'abord, on n'appelle pas rêve tout ce qui est consécutif à une digestion difficile. Parce que, par exemple, quelqu'un qui le soir prend un bon plat de praïla, s'il rêve dans la nuit, il ne doit pas en tenir compte. Parce qu'il a des problèmes digestifs qui l'ont tenu réveillé, il se met à penser à des choses. Deuxièmement, si dans la journée qui a précédé, ça c'est la Guémara, on parle pas de la Préhila, mais enfin, bien qu'il y ait un texte de la Guémara démontré, on évoque un plat, des binards, et on dit comme ça qu'on laisse longtemps sur le feu et qu'il fait tor-tor. Vous avez déjà entendu là, la Préhila, tor-tor-tor-tor. D'accord ? Ce qui semblerait démontrer que la Guémara était écrite par des Tunisiens. Enfin, c'est un autre sujet, on ne va pas l'évoquer. Je sais que vous ne l'êtes pas tous, hélas. Enfin. Ceci étant, les rêves qu'il faut donc, auxquels il faut accorder aucune importance prophétique sont d'abord les rêves liés à un mécanisme du corps. Ou bien, comme j'ai dit tout à l'heure, une mauvaise gestion, ou bien encore un événement de la journée qui a précédé. Si dans la journée qui a précédé, on a été impressionné par quelqu'un, par une circonstance, par quelque chose, qu'on en rêve la nuit, il ne faut accorder aucune espèce d'importance. Idem, si le lendemain, demain, on a un événement qui compte pour nous, qui est important pour nous, et qu'on en rêve la veille, commencez pas à vous prendre pour des prophètes. Vous dites, ouais, j'ai rêvé hier soir que je dois faire ça et ça. Par contre, lorsque aucune des circonstances que je viens d'évoquer ne commande un rêve, et qu'il a lieu d'ailleurs de préférence, selon Agmaram, en fin de nuit, quand les effets de l'alimentation ont disparu, et que on a trouvé une certaine sérénité, là, on peut peut-être tenir compte d'un message, pas de prophétie, que le rêve est venu nous indiquer et se rappeler enfin d'une chose. Un rêve dépend essentiellement, et on l'apprend du Yosef HaTzadik dans la Guémara, de celui qui l'interprète. La Guémara dit quelque chose de très très fort. Elle dit un rêve que personne n'a interprété, et comme une lettre que l'on n'a pas lue. Keigarta de l'Omidkaria. Donc, dans le rêve, il y a deux personnages, celui qui rêve et celui qui interprète. C'est la raison pour laquelle, va dire la Guémara, on doit raconter ses rêves à des gens qui nous aiment. Parce qu'ils vont donner une interprétation positive au rêve. Et elle donne un exemple, moi. Il y a un jour, une dame qui a eu un rêve, quand elle avait des rêves, elle allait à Yeshiva, elle est racontée à un rave, notamment, qui s'appelait Rabbi Eliezer. Et un jour, elle vient donc raconter son rêve. Et Rabbi Eliezer n'était pas là. Alors il y a un des élèves qui dit, madame, racontez-le moi, je vais vous l'interpréter. Alors elle dit, voilà, je me trouvais chez moi, et puis le grenier de ma maison s'est effondré. Alors l'élève dit, ben, ça veut dire que votre mari va mourir. Passera. À ce moment-là, elle lui a dit, l'abbé Eliezer arrive. Et il trouve cette dame en pleurs à l'entrée d'Aïshiva. Il lui dit, qu'est-ce qui s'est passé, madame? Elle lui raconte son rêve. Et le rave furieux se tourne vers l'élève et lui dit, malheureux, vous avez failli tuer cet homme, en parlant de son mari. Et il lui donne une autre interprétation qui, elle, s'est réalisée. Il lui a dit, tout simplement, vous allez avoir un bébé cette année. Le toit qui s'ouvre, ça veut dire votre ventre, il va contenir un bébé que vous allez accoucher cette année. Vous savez que ça n'a rien à voir. Et c'est la deuxième interprétation qui a été la bonne. Donc, quand vous rêvez de quelque chose de bien ou de pas bien, allez voir quelqu'un qui vous aime. Et la Guémara dit, les rêves de Yosef ont tardé à se réaliser parce qu'ils ont raconté à ses frères qu'ils ne l'aimaient pas. Et donc, ils lui ont donné une interprétation négative. Ils ont donc différé la réalisation du rêve. Alors que s'il n'en avait parlé qu'à son père ou à d'autres personnes qu'il aimait, on aurait eu une réalisation rapide et heureuse. Alors, rappelez-vous, ce soir, quand vous dormirez, si vous rêvez, n'oubliez pas, je ne vais pas vous laisser, il fallait me vous donner un numéro vert, vous m'appelez demain matin, vous me racontez le rêve et on va vous faire une interprétation. D'accord ? Voilà, mes chers amis, je vais m'aider pour voir quelques minutes après à propos du livre. Je voudrais m'arrêter là et vous demander, quand vous l'aurez lu, parce que tout à l'heure, quelqu'un m'a un peu amusé, il m'a dit, il est bien votre livre, hein. C'est bien la photo. Il faut le lire. Quand vous l'aurez lu, relisez-le pour essayer d'en tirer la quintessence et qu'ensuite on puisse continuer à répandre la Torah qui est le but de notre vie. Alors, mes chers amis, je vais vous remercier de votre présence ce soir. Il y aura un nouveau cours en décembre, dont Ephraim. Aujourd'hui, on a ouvert le cours à tout le monde. Le prochain cours, nous prenons un cours exclusivement pour les jeunes de moins de 35. Et donc, à très bientôt à tous. Et bien, c'est la fin.
Le cours est terminé, nous espérons que le cours a été apprécié. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques. Retrouvez également sur le site ToraBox www.torah-box.com trois enseignements de judaïsme par des rabbanim différents sur d'autres sujets variés et sous toutes les formes, audio, vidéo ou sous forme d'articles. À bientôt.